projecteurs, à présent, qu'on le veuille ou non, qu'on les utilise avec parcimonie ou non, à moins de vivre sur une île déserte, sans téléphone, ordinateur, ni tout simplement Internet, eh bien, impossible de vivre aujourd'hui sans réseaux sociaux. Bah oui, même si on n'a pas de compte ou de profil sur Facebook ou autre, puisque même en écoutant les infos à la radio ou en regardant un journal télévisé, il est régulièrement fait mention des commentaires d'internautes, d'un accès de popularité ou de la tempête médiatique soulevée par telle ou telle petite phrase. Un spectacle ou plutôt une conférence gesticulée se propose de décrypter les différents impacts des réseaux sociaux sur nos vies. Ces réseaux, à voir au Centre Bruegel du 24 au 27 mai, un spectacle ou plutôt une conférence gesticulée proposée par la compagnie Artaban. Eh bien, il va nous expliquer la différence. C'est le metteur en scène que nous recevons aujourd'hui, Antoine Motte. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors, une conférence gesticulée, tout d'abord, mettons les pieds dans le plat, c'est quoi ?
Eh bien, on est à la frontière entre une simple conférence et un spectacle, puisqu'on va alterner entre les deux. Le public va être investi, puisqu'on va lui poser des questions comme dans une conférence. Il va pouvoir interagir, voilà. Et va pouvoir proposer des choses et altérer un petit peu le contenu de la conférence en fonction de ses réactions. Et puis, on a des scènes un peu plus écrites qui viennent illustrer le propos. Mmh. Voilà.
Donc, c'est vraiment une conférence que vous avez établie. Enfin, comme tout spectacle, il y a une trame, un scénario,
voilà,
un texte, un déroulé vraiment très, très précis, rigoureux, où là, vous permettez effectivement, comme vous le dites, au public d'intervenir. Ça veut dire qu'il faut quand même être prêt à tout, à répondre à plein de questions. Donc, vous avez bossé comme un dingue, comme un vrai expert des réseaux sociaux. Donc.
Voilà, oui. Mmh. Alors, on a effectivement fait beaucoup de travail de documentation. Ça ne manque pas, la documentation sur le sujet, et même la documentation scientifique. Et on s'est basé sur un très gros bouquin qui s'appelle « L'ère du capitalisme de surveillance » de Shoshana Zuboff, qui est une économiste du MIT, et qui analyse notamment les réseaux sociaux et, de façon générale, les entreprises du capitalisme de surveillance sous le prisme économique. Et elle invente le concept de capitalisme de surveillance et elle montre les singularités de ce capitalisme, en quoi il est nouveau par rapport aux précédentes formes de capitalisme. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est un des gros ouvrages très rigoureux sur lesquels on s'est basé. Et puis, les nombreux autres articles qu'on a consultés, qu'on a lus, les articles de presse, les articles scientifiques, etc. Donc le comédien qui est sur scène maîtrise très très bien le sujet.
Mmh. Et
est capable
citer,
de voilà, Antoine Gillet, tout
Antoine
à fait,
Gillet,
qui a coécrit le spectacle. Il connaît très bien le sujet et il est capable de rebondir et de répondre aux questions le cas échéant.
Oui, parce que effectivement, vous citez les sources scientifiques, les sources des essais sur lesquels vous êtes appuyé, mais il y a aussi beaucoup votre propre expérience des réseaux sociaux, forcément.
Oui, alors on parle pas tellement d'anecdotes personnelles parce que ce qu'on propose plutôt, c'est de montrer le fonctionnement des réseaux sociaux, c'est-à-dire quelles sont les entreprises qui font tourner ces réseaux sociaux, quels sont leurs intérêts, quels sont leurs modèles économiques, et donc en réalité, quels sont les vrais clients des réseaux sociaux. Alors, ça ne va pas être une grande surprise ce que je vais dire là, mais nous ne sommes pas les clients des réseaux sociaux.
Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est gratuit, on est le produit, c'est ça ?
Alors, bien souvent, oui. Il y a quelques exceptions à ça sur Internet. Wikipédia est un bon exemple, puisque Wikipédia est gratuit et pourtant nous ne sommes pas le produit. Mmh. C'est une des rares exceptions. Mais oui, pour les réseaux sociaux en tout cas... On fait une analogie dans le spectacle, sans trop dévoiler, mais on fait une analogie entre les réseaux sociaux et une ferme laitière. Une ferme laitière, elle a besoin d'avoir des vaches qui lui produisent du lait pour pouvoir ensuite vendre les produits laitiers à des clients. Nous sommes les vaches laitières des réseaux sociaux. Nous fabriquons la matière première qui peut ensuite être vendue aux clients. Les clients, ce sont les annonceurs, ce sont les publicitaires.
Et tout ce qui est vendu, ce sont nos données, ce qu'on consent à donner comme information de nous sur les réseaux.
Alors, ça n'est pas toujours forcément directement les données, c'est parfois le produit du résultat de l'analyse de ces données, parce que généralement, les réseaux sociaux gardent les données pour eux. Ce qu'ils vendent, c'est un produit dérivé de ces données, disons. Donc, ils ne vendent pas directement la matière première, ils vont plutôt vendre des produits conditionnés, parce qu'ils ne vont pas directement donner la mine d'or que représentent ces données. C'est-à-dire qu'ils vont conserver les informations brutes et ils vont vendre les informations traitées à des annonceurs. Alors, ça paraît un peu abstrait comme ceci, mais c'est très simple. On collecte toutes les informations directes et indirectes au sujet des gens qui consultent et qui utilisent les réseaux sociaux. Et puis, eh bien, de ces milliards d'informations se dégagent des comportements réguliers, des patterns. Oui, des images qui émergent. Par exemple, on prend une autre analogie dans le spectacle. La peinture pointilliste. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Si.
Ce sont plutôt des paysages qui sont uniquement peints à partir de petits points. Et donc, chaque point pris individuellement, si on regarde le tableau de très très proche, ne nous raconte pas grand-chose d'intéressant. Là où ça devient intéressant, c'est quand on les agrège, quand on les rassemble, quand on les ordonne, et tout à coup, on prend du recul et une image apparaît. Donc, on peut dresser les profils des personnes, des utilisatrices et utilisateurs des réseaux sociaux, qui sont très précis. Et on peut les dresser sans même que ces personnes n'aient besoin d'utiliser les réseaux sociaux d'ailleurs, ou sans même que ces personnes ne nous aient donné les données de façon directe.
Ça pose quand même question et c'est plutôt inquiétant quand même.
Ça pose énormément de questions d'éthique et puis ça pose des questions de vie privée qui sont abordées évidemment dans le spectacle. On aborde ces questions-là. On aborde qu'est-ce que c'est qu'une donnée d'abord? Parce que, on a tous l'impression qu'une donnée, c'est notre nom, notre prénom, notre adresse email, notre adresse, notre numéro de téléphone, bon. Mais en fait, ça n'est pas grand-chose. Alors, c'est intéressant, mais là où ça n'est pas très nombreux comme données, les données, c'est aussi tout ce qui est les métadonnées, c'est-à-dire l'heure à laquelle on se connecte.
Ce qu'on aime ou ce qu'on va consulter.
Ce qu'on va liker, etc. Ouais. Ce qu'on va consulter, le temps qu'on reste à lire chaque chose, qui on suit et qui nous suit, à quelle fréquence, est-ce qu'on communique les uns avec les autres. Et donc avec ça, déjà, les réseaux sociaux peuvent établir des schémas relationnels, des graphes relationnels, voilà, si telle personne connaît telle personne et telle autre personne, alors voilà. Et puis, si les gens ont tendance à se rassembler entre personnes qui se ressemblent. Donc, si je sais que la personne A aime le fromage, il y a de fortes chances que ses amis aiment également le fromage. C'est un très bête exemple, hein, mais voilà. Donc, il est possible de définir des orientations politiques par groupe en fonction de des liens entre les personnes, sans même que les individus aient donné tous individuellement leur orientation politique. Orientation politique est un exemple, mais ça peut être orientation religieuse, sexuelle, ou préférence commerciale, ou que sais-je.
Ça veut dire qu'on est déshabillé même sans le savoir.
Voilà, exactement. Ce qui pose une question collective de chacun a le droit individuellement d'être sur les réseaux sociaux, mais le problème c'est que chacun, malgré soi, va donner des informations sur les autres. Puisqu'un réseau social, c'est un réseau, et donc on n'est pas tout seul sur les réseaux sociaux, on interagit.
Sinon on n'y va pas.
Voilà, sinon on n'y va pas. Et ce sont les interactions qui donnent beaucoup d'informations précisément. Alors on peut donner des informations sur soi individuellement, mais c'est surtout parce qu'on interagit avec les autres utilisatrices et utilisateurs qu'on donne beaucoup d'informations. Donc voilà, on analyse ça également, et puis alors on analyse les mécanismes mis en place par les réseaux sociaux pour nous faire rester et pour collecter plus d'informations. Si on continue avec notre analogie de la ferme laitière, dans une ferme laitière, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une ferme laitière, mais on fait rentrer les vaches dans la salle de traite, et elles ont toutes une magnifique mangeoire dans laquelle il y a du bon grain. Et généralement, c'est du grain qui est meilleur que dans la salle, que dans les tables. Et du coup, elles sont contentes d'y venir. Elles ont l'habitude, c'est horaire fixe, et elles sont très contentes de venir parce que là, c'est du bon grain, c'est pas juste du foin. Donc déjà, premier incitatif. Et puis, ici, le petit tour de magie, c'est qu'évidemment, le grain qu'on nous donne, qui est donc ce qu'on voit apparaître sur notre fil d'actualité, toutes les informations, voilà, il est fabriqué sur mesure pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, il nous correspond très très bien. C'est comme si on avait modifié la composition du grain pour chaque vache individuellement. Et c'est ce grain que l'on mange qui va fabriquer le lait que l'on va produire. C'est parce que le grain est très particulier, nous est très particulier, qu'on va produire plus de lait, parce qu'on va vouloir rester plus longtemps, parce que le réseau social, en quelque sorte, nous propose un contenu à notre mesure, à notre taille. Voilà.
Alors si le contenu est effectivement à notre mesure, finalement ce côté réseau social n'a de réseau social, enfin c'est le nom est usurpé puisqu'on est toutes des petites bulles et qu'on n'a pas de réelle interaction avec les autres. On a l'impression d'avoir une ouverture sur le monde et finalement, vous nous expliquez, c'est pas le cas.
Alors ça n'est pas tout à fait nouveau. Nous sommes,
on en était conscients.
Voilà, ça existait avant dans une moindre mesure, mais nous sommes toutes et tous enfermés dans ce qui s'appelle des bulles informationnelles. C'est-à-dire que on est tous coincés dans une vision du monde avec des informations qui nous parviennent, qui sont biaisées, qui sont plus nombreuses sur tel sujet, moins nombreuses sur tel autre sujet, qui nous apparaissent en fonction de nos voisinages et de nos connaissances, justement, plus ou moins amplifiées, ou plus ou moins tronquées, ou plus ou moins politiquement biaisées, ou que sais-je. Et il est très difficile de s'extraire de ça. Et en plus du fait que ça soit difficile, c'est douloureux. Parce que ça nous confronte à des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord, des idées qui sont perturbantes parce qu'elles remettent tout notre schéma cognitif, en quelque sorte, en cause. Et donc, elles nous bouleversent, ces autres bulles informationnelles. Donc, ça n'est pas du tout confortable d'en sortir. Même si ça peut être intéressant d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue que sais-je, voilà, on peut vivre dans une bulle informationnelle extrêmement toxique qui ne nous fait pas du bien, mais c'est plus confortable d'y rester que d'en sortir. Et les réseaux sociaux vont exploiter ça et vont tenter de nous y maintenir le plus possible pour qu'on s'y sente bien, pour qu'on y revienne. C'est ce qui explique, par exemple, que les suggestions de vidéos YouTube nous font tomber dans ce qu'on appelle le trou du lapin blanc, qui est une référence à Alice au pays des merveilles, et va nous suggérer des contenus de plus en plus extrêmes sur la thématique qu'on avait commencé à regarder à la base.
On va creuser notre propre niche et perdre le pont d'ensemble, la vue d'ensemble.
Voilà, c'est ce qui explique que on peut avoir des phénomènes de radicalisation sur les réseaux sociaux, notamment parce que les systèmes sont pensés pour nous garder enfermés dans une bulle informationnelle et il est difficile d'en sortir.
Et être conforté par d'autres qui vont penser comme nous et
légitimer, exactement.
On va se dire, y a d'autres qui le pensent, donc forcément j'ai raison.
Je ne suis pas tout seul à penser ça, donc j'ai raison. Et on se confirme les uns les autres qu'on a raison et on se renforce de cette manière-là.
Et pour comprendre un peu mieux les mécanismes, il y a cette conférence gesticulée donc à partir du 24 mai, donc la semaine prochaine. Jusqu'au 27, c'est à 20h30, sur scène Antoine Gillet, mise en scène Antoine Motte. On va aussi préciser que cette conférence gesticulée est proposée par l'ASBL Article 27 et c'est donc au Bruegel, la compagnie Artaban qui vous propose ce spectacle conférence gesticulée et on va aussi préciser que c'est pour tout le monde à partir de 14 ans. Merci beaucoup Antoine Mott. Merci.
Merci.